VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est midi à Bangui, en Centrafrique. La Cour pénale spéciale chargée de juger les crimes de guerre commis entre 2003 et 2015 sera bientôt à pied d'œuvre après l'installation officielle de ses membres. Mais pour la société civile et les organisations des droits de l'homme, la mission de cette institution internationale, dirigée par le procureur spécial Toussaint Moutazini de la RDC, doit s'étendre aux crimes commis au-delà de 2015 jusqu'à nos jours. Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
Il y a des dispositions pertinentes pour la création de la Cour pénale spéciale qui indiquent que toutes les personnes victimes peuvent saisir immédiatement le procureur spécial par une plainte avec constitution de partie civile sur des faits dont la gravité relève de la compétence de la Cour pénale spéciale. Donc il est probable que, malgré que les experts ont travaillé sur la période allant de janvier 2003 à décembre 2015, les victimes qui ne sont pas dans cette catégorie peuvent toujours saisir la Cour pénale spéciale. Les organisations de la société civile que nous sommes, nous avons de notre côté documenté des crimes, tracé la cartographie de ces crimes-là sur le territoire national. Nous continuons de recevoir les parties civiles et nous continuons de documenter des crimes que nous pensons vont être tirés par la Cour pénale spéciale.
Joseph Bindoumi, le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. 23 militaires burundais viennent d'être révoqués par le président Pierre Nkurunziza. Ils avaient été envoyés dans des écoles d'études militaires, mais ne sont pas rentrés au pays. Depuis 2015, des militaires en fonction ou en mission à l'étranger ont refusé de retourner au pays, craignant pour leur sécurité. D'autres avaient rejoint les mouvements rebelles, mais le porte-parole de la présidence indique que ces militaires n'ont rejoint aucun mouvement rebelle. Reportage à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Depuis le coup d'État raté du 13 mai 2015, à la tête duquel se trouvait le général Godefroy Niyombare, certains officiers supérieurs de l'armée burundaise qui étaient en mission à l'étranger ont refusé de regagner le bercail. Comme l'ancien porte-parole de l'armée, le colonel Adolphe Manirakiza, ils craignaient pour leur vie. Depuis le 26 mai dernier, un décret présidentiel a révoqué 23 officiers supérieurs. Le porte-parole du président burundais, Jean-Claude Ndenzako, donne les raisons de cette révocation.
Les 23 officiers sont composés de 19 officiers supérieurs et de 4 officiers subalternes. Et ils étaient partis à l'étranger pour poursuivre des études de troisième cycle, spécialement en Belgique, en France et au Canada. Tous étaient d'abord inscrits en classe de maîtrise pour une période de 2 ans avant de poursuivre un cycle doctoral de 3 ans, soit un total de 5 ans. La désertion à l'étranger est sanctionnée par une révocation.
Le vice-président du parti Frodebou, Front pour la démocratie au Burundi, Léonce Ngendakumana, estime que cette situation doit être étudiée minutieusement, sinon le pays est en train de créer des ennemis au sein de ses forces vives.
C'est un cas extrêmement grave dans la mesure où nous avons dénoncé le fait que les corps de défense et de sécurité, à savoir l'armée, la police, le service national de renseignement, étaient en train d'être instrumentalisés, étaient en train d'être manipulés, étaient en train d'être détruits systématiquement sur faux politiques et ethniques. Au moment où même ceux qui ont appris à manier l'arme décident de quitter l'armée, décident de quitter la police, ou décident de rester là où ils sont, soit en mission ou aux études, c'est que la situation est extrêmement grave. Et qu'ils sont aujourd'hui éparpillés, soit à l'intérieur du pays, au sein de la population, soit à l'extérieur du pays dans des réfugiés, soit en train de s'organiser quelque part, en mouvement, en des mouvements politiques armés. Ça, c'est un danger assez évident que le pays se trouve en insécurité, que je demande au nom du parti Sawanya Frodebo que cette question soit programmée d'urgence pour examiner toutes les voies et moyens qui permettraient de stabiliser les corps de défense et de sécurité.
Avec les accords de paix et de réconciliation d'Arusha signés en Tanzanie en avril 2000, les différents mouvements rebelles, essentiellement Hutu, dont le CNDD-FDD aujourd'hui au pouvoir, avaient fusionné avec l'ancienne armée majoritairement Tutsi pour former les fausses armées burundaises. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En RDC, le président Joseph Kabila s'est rendu mardi dans la capitale du Kasaï central. C'est sa première visite dans la province depuis le début, en septembre, d'une vague de violence meurtrière dans le centre de ce pays. Cette violence fait suite à la mort de Kwamina Nsapu, le chef traditionnel tué le mois précédent lors d'une opération militaire après s'être révolté contre les autorités de Kinshasa. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a mis fin aux fonctions de deux ministres selon un décret lu sans autre précision mardi soir à la Radio Nationale. Il s'agit du ministre de l'Aménagement du Territoire Hamid Mahamat Daoulob et de celui des Mines et de la Géologie David Odinga. Selon l'AFP, citant une source officielle qui a requis l'anonymat, les deux ministres seraient épinglés dans des malversations par l'inspection générale d'État. Au Burkina Faso, la compagnie Air Burkina, désormais propriété de l'État du Burkina, le groupe Aga Khan, qui en était propriétaire, a décidé de céder ses actions à l'État burkinabé pour un franc symbolique, une transition qui réjouit le ministre des Transports du pays désormais intègre, Souleymane Soulama.
Il appartenait à l'État pendant plus de 30 ans et ensuite on a privatisé et le groupe Aga Khan l'avait racheté effectivement. Le groupe a décidé de céder à un franc symbolique. Cela veut dire que nous allons reprendre la compagnie sans dette. Donc ça fait que nous prenons en tout cas une compagnie sans problème. Maintenant, c'est à nous de pouvoir insuffler ce dynamisme-là pour assurer la continuité, poursuivre l'œuvre qui a débuté depuis 50 ans.
Souleymane Soulama, le ministre burkinabé des Transports, le président kenyan Uhuru Kenyatta a inauguré aujourd'hui le plus grand projet d'infrastructure accompli au Kenya depuis son indépendance en 1963. Il s'agit d'une ligne ferroviaire liant la capitale Nairobi à Mombasa sur l'océan Indien et devant asseoir la position du Kenya comme porte d'entrée de l'Afrique de l'Est. Ce sont au total 472 km de rails financés et construits principalement par la Chine qui ont vocation à remplacer le Lunatic Express, la ligne construite par le colon britannique. Hors d'Afrique, les politiques et les pratiques d'occupation appliquées depuis 50 ans par Israël au territoire palestinien sont la principale raison des besoins humanitaires de leurs habitants, affirme l'ONU dans un rapport rendu public aujourd'hui. L'origine de la crise dans les territoires palestiniens occupés se trouve dans le manque de protection pour les civils palestiniens, estime David Carden, qui dirige l'OCHA, le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies, dans les territoires palestiniens. Et puis la Russie a tiré depuis un sous-marin et une frégate déployée en mer Méditerranée plusieurs missiles de croisière calibre contre des cibles de l'organisation État islamique près de Palmyre en Syrie, a annoncé l'armée russe. Tous les objectifs ont été atteints, ajoute le communiqué qui précise que les États-Unis, la Turquie et Israël avaient été prévenus à l'avance de ces frappes effectuées par la frégate Amiral Hessen et le sous-marin Krasnodar.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Il est 7h08 à Washington. La Corée du Nord a averti qu'elle était prête à tirer des missiles balistiques intercontinentaux après que Washington eut annoncé un test réussi d'interception d'un tel engin. Les États-Unis ont affirmé mardi qu'un missile tiré depuis la base de Californie avait intercepté avec succès un missile balistique intercontinental cible, je vais y arriver, sans charge nucléaire parce qu'il s'agissait d'un essai lancé depuis le Pacifique. De son côté, Pyongyang multiplie les tirs de missiles dans le cadre d'un programme qui vise à doter la Corée du Nord de missiles balistiques intercontinentaux susceptibles de porter le feu nucléaire sur le sol continental américain et d'accroître ainsi sa force de dissuasion. Le Parlement sud-coréen a approuvé aujourd'hui la nomination à la tête du gouvernement de l'ancien journaliste Lee Nak-yeon, ce qui va permettre au nouveau chef d'État Moon Jae-in de remplacer les ministres nommés par l'ex-présidence destituée. L'Assemblée nationale a validé la nomination du Premier ministre par 164 voix contre 20, alors que les 107 élus du Parti de la Liberté de Corée, d'opposition donc, se sont abstenus. La nomination de M. Lee, quatre fois député, a été retardée par des accusations selon lesquelles son épouse aurait utilisé en 1989 une fausse adresse pour obtenir un poste d'enseignant à Séoul. Et pour terminer, l'Afghanistan a connu un début de mois de Ramadan sanglant avec un attentat au moins au camion piégé qui a tué au moins 80 personnes aujourd'hui et fait des centaines de blessés au cœur du quartier diplomatique de Kaboul. L'explosion, dont la cible n'était pas claire dans l'immédiat et qui a provoqué une onde de choc et de nombreux dégâts à la ronde, notamment dans les ambassades de France et d'Allemagne. Jean-Roger Billon à ce micro, le prochain journal dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.